France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Inès Bouffartig, Sébastien, Barthélémy Gaillard et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Nicolas Leroulé. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée à la reconstruction d'après-guerre. Aujourd'hui, dans un pays qui en sort juste et où il s'agit de diriger au mieux les dons, les prêts et les investissements privés, la Syrie. Les États-Unis ont levé les sanctions, comme l'annonçait Donald Trump en mai dernier. Ici, suivi par le président syrien Ahmed al-Shara.
Comme vous le savez, la Syrie est une très grande partie du Moyen-Orient, une partie très importante. Si vous regardez la Syrie, pendant des années, ils avaient des médecins, des avocats, tant de grands intellectuels. C'est un endroit incroyable, avec des gens formidables. Nous voulons voir la Syrie devenir un pays qui réussit vraiment. Et je pense que ce dirigeant peut y arriver, je le pense vraiment.
Nous avons décidé que la reconstruction de la Syrie passera par l'investissement. Nous n'avons pas choisi de reconstruire par le biais de l'aide internationale et des subventions. Comme dit le proverbe, apprends-moi à pêcher, ne me donne pas du poisson chaque jour. Je pense que c'est une opportunité historique pour les investisseurs. Il y a une certaine compétition, mais aussi de l'attente de la part de certains. Et je pense que l'opportunité en Syrie est immense et il y a de la place pour tout le monde.
En pleine guerre civile syrienne, alors qu'elle regarde des images de la ville de Homs totalement dévastée, Justine Auger écrit dans son livre « Personne morale » le mot « rasé », parfois employé pour qualifier ces cités bombardées, ne semble pas convenir. La matière ne se dissipe pas, la ville ne disparaît pas, mais elle mute, se change en amoncellement de ruines de béton, de fragments d'objets et de meubles familiers devenus incongrus, de tiges d'acier et de traces de vie. Dans les ruines des immeubles effondrés de Homs, comme à Sarajevo, Gaza ou Bakhmout en Ukraine, je perçois mieux la lourdeur du béton dans ces images de corps que l'on peine à dégager. Ces fragments stériles et enchevêtrés qui pèsent si lourd renvoient l'écrivaine aux millions de tonnes de ciment produites à l'époque par le groupe Lafarge dans son usine de Jabalia, alors que l'État islamique sévissait dans la région, menace terrible pour les ouvriers. Le ciment, lui, était aussitôt exporté. Il n'était alors pas encore question de reconstruire la Syrie. Aujourd'hui, plus d'un an après la chute de Bachar al-Assad, le pays a bel et bien besoin de béton. Le travail des pelleteuses, les routes qui se réparent, les chantiers qui s'ouvrent donnent déjà l'impression d'un pays en mouvement. Mais pour faire quoi? Le président Ahmed al-Shara assure avoir déjà obtenu des promesses d'investissement pour plusieurs milliards de dollars, en particulier des États du Golfe. Vont-ils ces investissements profiter à la population syrienne? Quels sont les enjeux de reconstruction dans un pays qui sort tout juste de 13 années de guerre? C'est tout l'objet d'un programme de recherche lancé par l'Institut français des relations internationales et auquel vous participez, Dorothée Schmidt. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du programme Turquie et Moyen-Orient à l'IFRI. Vous travaillez en ce moment sur les processus de reconstruction post-guerre dans la région du Levant. Bonjour Joseph Daher.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, d'être venu depuis la Suisse où vous vivez et enseignez. Vous êtes chercheur spécialiste de l'économie politique du Moyen-Orient. Vous êtes notamment l'auteur de Syrie, le martyr d'une révolution, paru en 2022 aux éditions Sileps. Joseph Daher, vous êtes vous-même suisso-syrien. Vous êtes retourné en Syrie plusieurs fois depuis la chute de Bachar al-Assad. La dernière fois, c'était en janvier. Est-ce que vous avez vu les premières pierres de ce qui peut commencer à être une reconstruction, où pour l'instant seules les destructions vous sautent encore au visage et à la gorge?
Bonjour et merci encore une fois pour l'invitation. Je pense actuellement encore en Syrie, pour la grande majorité des cas, il s'agit de reconstruction d'initiatives individuelles. Pour avoir été à Damas, à Homs, à Alep, sur la route d'Alep, vous avez des villes qui étaient connues durant la guerre comme Khan Cheikhoun, où il y a eu des attaques chimiques, où c'est à plus de 80% détruite, Ma'arat et Norman, aussi sur la route d'Alep. Alep, en soi, Alep Est également, énormément détruites. Il y a quelques initiatives individuelles, mais il n'y a pas de projet au niveau de l'État pour la reconstruction. Pour avoir visité également, si vous allez dans la banlieue de Damas, aux 10 minutes du centre-ville, vous avez des villes de type Zamalka ou le camp de réfugiés de Yarmouk qui est énormément détruit. Dans le cas de Yarmouk, pour avoir été à plusieurs reprises, on voit un début de retour. Selon des statistiques qui m'ont été communiquées par des gens issus du camp, on est passé de à peu près 10 à 15 000 personnes l'année passée, début janvier 2025, à aujourd'hui plus de 40 000. Et on voit au début du camp qu'il y a une petite activité commerciale, mais sinon, les trois quarts du camp sont complètement détruites, où vous voyez parfois quelques immeubles reconstruits, mais il s'agit d'initiatives individuelles. Il n'y a pas du tout, au contraire, de plan étatique, et je pense qu'on y reviendra plus tard, mais la reconstruction, c'est plus que reconstruire des pierres. Il s'agit de reconstruire l'économie, la société, dans sa globalité, et ça, c'est quelque chose qui est complètement absent. Je pense, dans le cadre du programme du nouveau gouvernement syrien, et au contraire, qui, selon moi, renforce les inégalités qu'on va pouvoir voir dans l'avenir, et qui réitère, en fait, des programmes de reconstruction qui ont eu des échecs retentissants, que ce soit au Liban ou en Irak, mais qui reproduisent des problèmes passés et les approfondissent.
Donc, pour l'instant, quelques immeubles ou rues centrales, y compris dans ce quartier palestinien de Yarmouk, dans le sud, la banlieue sud de Damas, parmi les plus grands camps de réfugiés au monde, 160 000 habitants pour la plupart palestiniens. Pour donner une idée, le camp de Shatila à Beyrouth, c'est 20 000 habitants. Un quartier ravagé par la guerre qui a subi et des bombardements intensifs et même un siège des forces de Bachar al-Assad entre 2013 et 2015. Donc, des ruines encore qui restent des ruines, à vous entendre, Joseph Daher, mais ici et là, des personnes qui viennent avec leur matériel pour tenter de reconstruire quelque chose. Dorothée Schmidt, est-ce qu'il y a des régions en Syrie où l'électricité a été rétablie et où elle est à peu près stable ?
Alors d'abord, première chose, j'ai peut-être tendance à avoir une vision plus positive, plus optimiste, parce que j'ai une vision plus macroéconomique, effectivement. Et que là, tout notre problème pour comprendre ce qui se passe en Syrie, c'est de réconcilier ce niveau de reconstruction spontanée qui est absolument indispensable, puisqu'on est quand même dans un pays où les deux tiers de la population a été déplacée ou réfugiée, où les gens veulent revenir chez eux, veulent se réinstaller, veulent faire redémarrer le pays. Et le niveau de destruction est tel, le niveau de pauvreté est tel, que évidemment on ne sait pas très bien par quel bout commencer, mais la stabilisation de la Syrie, c'est un enjeu énorme pour toute la région. Je crois que vous avez fait hier une émission sur Gaza. Bon, évidemment, les comparaisons sont absurdes dans la région, mais quand on considère qu'on est dans des contextes post-conflit, étant donné le niveau de destruction qu'on a eu en Syrie, il y a quand même une effervescence économique qui commence. Alors effectivement, il y a une énorme misère qui se renforce dans les lieux, comme vous le dites, comme dans les camps. Mais il y a l'idée de ce dynamisme urbain. Il y a Damas qui a été finalement très peu touché par les destructions, qui est encore la capitale du pays. Mais la capitale économique, c'est Alep. Et à l'avenir, l'enjeu quand même de redémarrage ou de transformation aussi de l'économie syrienne, qui était une économie qui fonctionnait de façon complètement sous-optimale, parce que c'était une économie qui était enfermée, qui était sous cloche pratiquement bien avant la guerre en fait. Hein. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de transformer cette économie, que ça devienne une économie de marché productive, fonctionnelle, qui soit pas uniquement une économie de pseudo-services, de mafia, de production de drogue, comme ça a été sous Bachar. Et puis de mondialiser, d'ouvrir la Syrie sur l'extérieur aussi. Et à côté de ça, il y a cette question des inégalités sociales et territoriales, évidemment. Donc,
des pays que vous observez en ce moment dans le cadre de vos programmes de recherche, Dorothée Schmidt, oui. La Syrie est le seul vrai cas post-conflit réellement, en tout cas immédiat, parce que le Liban, vous avez plus de recul pour l'étudier. Gaza, on n'est pas encore dans le post-conflit, donc la Syrie est un objet d'étude pour vous intéressant et pour vous un objet plus personnel aussi, Joseph Daher, mais que vous étudiez comme chercheur. Vous évoquez tous les deux la ville d'Alep, qui était censée être la ville moteur de la reprise et de la reconstruction. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, comme le dit ces témoignages recueilli par Guilhem Delteil et Bertrand Acler pour RFI.
C'est indescriptible. Des destructions partout, des destructions. Les marchés de la vieille ville étaient en ruine, les bombes avaient tout fait exploser.
Comme il s'agissait d'une zone classée, il était interdit de faire des modifications. Donc il a fallu attendre un plan de rénovation mis en place par des organisations sous la supervision des services gouvernementaux.
Pour le moment, aucun responsable n'est venu dans la vieille ville. Nous avons été rencontrer le nouveau gouverneur. Il nous a demandé d'être patients, mais on lui a dit que cela fait 13 ans que nous sommes patients. Tout est entre les mains de Dieu.
Cela fait 13 ans que nous sommes patients, dit cet habitant d'Alep, Joseph Der. Rien ne s'était fait déjà sous Bachar al-Assad. Rien de ce qui avait été détruit à partir de 2011 n'avait déjà été reconstruit, même avant sa chute.
Non, il est certain que, de toute façon, le régime de Bachar al-Assad avait pour objectif la destruction, l'élimination, et pour également, pas simplement dans une perspective de répression, tout azimut et destructrice, qui a eu plusieurs dizaines de milliers ou plusieurs centaines de milliers de victimes à cause de sa répression, mais également une accumulation par dépossession. C'est-à-dire, on va prendre possession des biens d'autrui, considérés comme opposants, comme une menace, pour accumuler ou pour encourager de nouvelles dynamiques de profit. Donc la question de la reconstruction était, question de la reconstruction future, était abordée de cette manière. Accumuler des profits, mais également réprimer. Aujourd'hui, on est, et il y a beaucoup plus de continuation que de rupture, en fait, avec le gouvernement actuel. Et c'est dans ce cadre-là, que, aussi dans une perspective macroéconomique, que la Syrie, d'avant 2011 et post Assad a beaucoup de choses en commun, beaucoup de programmes économiques en fait sont ressortis des tiroirs des années 2000. Tout un certain nombre de personnalités économiques ou personnalités politiques qui étaient présentées comme réformistes durant les années 2000, durant l'ouverture dite économique du régime Assad, sont redevenus aujourd'hui des ministres ou à la tête de la Banque centrale.
C'est vraiment du libéralisme, on amoindrit le rôle de l'État en Syrie, là d'ores et déjà depuis un an.
Il y a une accélération qui avait commencé totalement sous Bachar al-Assad, mais il y a une accélération maintenant. Et selon moi, quand les premières mesures du nouveau gouvernement sont des mesures d'austérité brutales, on enlève les subventions sur le pain, sur les produits dérivés pétroliers et dernièrement sur l'électricité. D'ailleurs, les deux dernières semaines en Syrie, on a des manifestations, que ce soit de travailleurs, travailleuses, d'ouvriers, ouvrières, un peu partout en Syrie. On a une grève générale dans plus de 1700 écoles dans le nord de la Syrie, à Idlib, dans la banlieue d'Alep et autres. Ce gouvernement ne cherche pas à reconstruire au profit de la majorité des Syriens qui vivent à plus de 80% sous le seuil de pauvreté pour une toute petite minorité. De même, on retrouve une économie qui ne cherche pas du tout une économie productive, mais à dynamique commerciale. D'ailleurs, vous allez parler avec des grands industriels d'Alep, ville dont je suis originaire, tout ce qui est fermier, paysan, ils subissent la politique de libéralisation à outrance au niveau commercial. Les produits exportés de Turquie ont explosé encore davantage qu'auparavant. Donc on a, au contraire, on a un gouvernement qui cherche à reconstruire, même pas à reconstruire en l'occurrence, ils ont des projets immobiliers de luxe, 5 étoiles, des grands malls à perspective, ils n'ont pas du tout une perspective de reconstruction des quartiers qui ont été détruits.
Pour l'instant, et on rentrera dans le détail tout à l'heure, en effet, de grands projets qui sont censés générer des profits à très court terme, donc ces grandes infrastructures touristiques pour faire entrer des devises, faire en sorte que dans les mois qui viennent, le tourisme reprenne à plein. De quoi a besoin la Syrie ? D'abord, si on parle vraiment des Syriens, quelles infrastructures sont les plus urgentes à faire sortir de terre ou à restaurer pour celles qui ont été détruites ? Car Dorothée Schmidt, il y a sans doute des infrastructures toujours en place qui peuvent servir un peu de base pour la reconstruction.
La première question, c'est le logement quand même. On a 5,5 millions de personnes qui ne sont pas logées en Syrie. Donc évidemment, ça c'est, comme le disait Joseph tout à l'heure, il y a d'abord un effort individuel. Parce qu'en fait, on a des réfugiés qui reviennent des pays voisins. La Turquie prétend par exemple qu'on a 500 000 Syriens qui sont revenus. Je me souviens d'avoir échangé avec des hommes d'affaires syriens à Mersin, en Turquie, qui envisageaient déjà l'année dernière de revenir, alors qu'ils savaient que toute leur propriété avait été détruite à Alep, mais qui disaient « bon, la famille veut rentrer, on va rentrer, on se débrouillera », avec une fermeté extraordinaire, parce qu'effectivement, ils savent qu'ils rentrent dans un champ de ruines complet, où en plus, leurs droits de propriété vont pas forcément être respectés. Parce que, comme l'a dit Joseph, il y a eu toute une politique d'expropriation, de prédation individuelle mise en place par Bachar dans une perspective de nettoyage de la Syrie de tous ses opposants. Donc, en fait, il y a eu des lois de nationalisation, de récupération, de développement urbain qui aboutissent aujourd'hui à une confusion complète sur les droits de propriété. Donc ça, c'est aussi... Il y a plein de micro-dangers de conflits qui sont des conflits de nature presque économique, hein, si on a une perspective marxiste. Il y a la misère contre ceux qui ont un peu d'argent. Il y a les classes moyennes qui risquent de pas retrouver leurs biens alors qu'elles en avaient et qu'évidemment, elles sont indispensables pour faire repartir le pays. Il y a cette perspective de conflit territoriale, de fragmentation territoriale, qui recouvre aussi des enjeux économiques, parce que ce qu'on appelait la Syrie utile, la Syrie de l'Ouest, y a une partie qui est une Syrie alaouite. Damas, c'était aussi une ville de garnison qui était la ville du gouvernement, et il faut recycler les fonctionnaires, comme l'a dit Joseph, parce que sinon on se retrouve dans un truc à l'irakienne où finalement la débasification, elle a abouti à une incompétence complète. Alors, je dis pas que les fonctionnaires du régime de Assad étaient forcément super compétents, mais il y a des technocrates qu'on va essayer de réintégrer quand même. Et puis il y a les Kurdes à l'est avec la question des ressources pétrolières, de l'agriculture syrienne aussi. Donc tous ces risques de fragmentation existent. Et ce que je veux juste dire, c'est qu'évidemment l'État a probablement pas de plan, même si on nous dit que Ahmed Sharaa adore l'économie lui-même et que donc ça l'intéresse. Il est complètement sous contrainte parce qu'il faut qu'il essaye de unifier ce pays. Bon, alors avec des moyens effectivement un peu autoritaires, ouais, mais la contrainte c'est le financement de la reconstruction qui vient de l'extérieur. Et donc, il doit faire aussi l'équilibre entre ces différents interlocuteurs extérieurs.
Donc, les priorités, le logement, vous le disiez.
Ah oui, l'électricité.
L'électricité, le réseau d'eau, priorité des priorités.
L'alimentation, bien sûr. Effectivement, la question de la fin des subventions, c'est très problématique sur le pouvoir d'achat. Et donc, il y a une grogne sociale et on revient à cette question de comment maintenir la paix.
Et pour parler de ramener toujours tout ça à la question de la reconstruction, les réseaux d'eau sont défaillants aujourd'hui, il faut refaire les égouts pour que l'eau continue, ne serait-ce qu'à être potable, même après qu'elle soit sortie des stations, parce qu'une fois qu'elle est dans les tuyaux, elle récupère toutes les saletés, les bactéries qui sont dedans, les terres agricoles aussi qu'il faut, non pas reconstruire, mais qu'il faut tout simplement refaire et en prendre soin. Pour toutes ces urgences, la Banque mondiale a accordé un don, un vrai don, pas un prêt, si j'ai bien compris, 125 millions d'euros pour réhabiliter le réseau électrique, mais aussi une promesse de nouveaux dons sous condition, 1 milliard de dollars sur 3 ans, pour financer des projets qui répondraient à des priorités comme celle de restaurer des services de base ou de reconstruire les infrastructures. Mais pour ça, Joseph Dair, le gouvernement doit présenter un plan de redressement et de reconstruction chiffré, organisé en projets. Est-ce qu'il en a les moyens humains et techniques de présenter à la Banque mondiale un document totalement béton pour dire voilà, c'est le cas de le dire, pour dire voilà de quoi on a besoin pour la reconstruction.
En l'occurrence, il existe déjà un certain nombre d'études qui montrent les destructions physiques qui ont été héritées du régime Assad, qui est le principal responsable de cette crise, de cette destruction, de cette fragmentation également du pays dont on parlait. Ça, il est certain. On parle de destructions physiques qui sont en hauteur de 120 milliards à 350 milliards de dollars, avec des pertes économiques accumulées de 1000 milliards depuis 2011. Donc, la tâche est titanesque. La question qui se dit et qui se pose, c'est quelle base pouvons-nous avoir pour permettre une reconstruction qui sert la grande majorité des Syriens et des Syriennes. Personne ne nie qu'il faut de l'aide internationale, des investissements privés. Mais le problème qui se pose, c'est tout d'abord ces investissements privés se passent sans contrat clair. Quels sont voilà comment ces contrats ont été alloués. On voit qu'il y a de nouveau des dynamiques un peu de type capitalisme de copains, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, où les réseaux proches du nouveau président par intérim, Ahmed Echeret, dont son frère, ses deux frères, profitent, les affiliés de Hayat Tahrir al-Sham. Est-ce que ces grands projets de reconstruction qui sont estimés aujourd'hui des promesses d'investissement simplement sur l'année 2025 de plus de 50 milliards de dollars bénéficient aussi à un Syrien, à ceux qui ont perdu leur maison? Non, c'est ça le problème principal. De même, on ne peut pas avoir une reconstruction sans un redéveloppement du secteur productif, manufacturier et agricole. Et dernière chose, c'est de dire que oui, la Syrie a besoin d'argent, Mais il y a un nouveau programme fiscal qui est prévu, qui favorise les grands capitaux, où on a une flat tax de maximum 15% sur les plus grosses entreprises commerciales, financières, quels que soient les profits qu'ils font. Donc, on a une économie, une reconstruction qui ne va pas servir la majorité des Syriens, mais une petite minorité affiliée à cette nouvelle classe dirigeante. Vous... Et c'est pour ça que je dis on reproduit le rôle du Liban et de l'Irak.
Vous parlez d'un capitalisme de connivence, des contrats qui circulent entre proches du pouvoir, les deux frères d'Ahmed al-Sharaa qui sont déjà très influents dans l'économie, avec tous les risques de captation de richesses que ça implique. Azem al-Sharaa, son frère aîné, préside le comité de restructuration de l'économie. C'est lui qui est chargé de la renégociation de grands contrats publics avec Abraham Soukarié, australien d'origine libanaise, sanctionné par ailleurs pour financement du terrorisme. Ce sont eux notamment qui sont en première ligne quand il s'agit d'aller chercher des contrats à l'étranger. Et en particulier auprès de l'Arabie Saoudite.
Sur la création de Nasiriyah Airlines, nous saluons la signature de cet accord pour une compagnie aérienne commune entre la Syrie et Nas Airlines, un partenariat visant à créer un transporteur aérien capable de répondre à la demande croissante.
Ces accords comprennent, en premier lieu, un contrat $1 milliard visant à développer les infrastructures de télécommunications et la connectivité numérique dans le cadre du projet Silk Link, qui contribuera à moderniser les réseaux de communication.
Le président de l'autorité générale de l'aviation civile d'Arabie Saoudite, suivi du chef de l'autorité syrienne d'investissement. C'était le 7 février dernier, la création notamment de cette compagnie aérienne commune à bas prix, déjà baptisée Nas Syria Airlines. La construction d'un nouvel aéroport à Alep, au nord de la Syrie, alors qu'il y en a déjà un. Il s'agit d'en construire un nouveau, des infrastructures de télécommunications, des milliards de dollars d'investissement de Roté Schmitt. Quels bénéfices en attendent l'Arabie Saoudite en particulier, mais aussi les pays du Golfe qui investissent aujourd'hui tant en Syrie?
Alors d'abord, pour revenir une minute sur la question des financements internationaux, là, il y avait une très grosse dette à la Banque mondiale qui a été remboursée par l'Arabie Saoudite et le Qatar.
Donc ça là, a été fait, cœur, ça. C'était une promesse, ça a été fait.
On est au cœur de cette connexion du passage du public au privé dont on est en train de parler. C'est-à-dire que là, ce qui se joue, c'est une Syrie qui finalement intéresse tout le monde parce que c'est un peu une page blanche sur laquelle on peut projeter des plans de construction, pas de reconstruction spécifiquement, mais de construction.
C'est dangereux la table rase politiquement.
Oui, bien sûr, c'est notre grand sujet sur cette question des reconstructions et sur les comparaisons avec des reconstructions précédentes, mais la question de Gaza est bien plus grave parce que là, elle fait vraiment, elle évacue totalement le contenu politique de cette table rase. Là, en Syrie, tout le monde l'a sous le nez, le contenu politique, toute la journée, parce qu'il y a un risque de retour à la guerre civile. Ce que je trouve intéressant socialement, et je pense que d'ailleurs Joseph l'incarne d'une certaine façon, c'est les Syriens de l'extérieur aussi, qui contestent cet autoritarisme qui est en train de se construire du gouvernement Sharaa, le retour des ONG, des corps intermédiaires, de toute cette société civile qui se structure en dialogue avec le gouvernement ou éventuellement en marge du gouvernement ou contre le gouvernement. L'association des industrialistes, des patrons d'Alep, par exemple, qui s'affrontent avec le gouvernement sur ce que vient de raconter Joseph tout à l'heure, le sujet des importations massives de produits turcs, etc. Donc je pense que ça, c'est très important, cette question du débat social. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde, tous ceux notamment qui reviennent de l'extérieur, estiment qu'ils doivent avoir quelque chose à dire sur ce qui se passe en Syrie. Simplement, l'essentiel de l'argent, le gros argent dont vous parlez, Julie, il va venir d'autres pays qui sont les parrains de la reconstruction, qui ont évidemment tous des projets, parce que le premier projet, j'essayais de le dire au début, c'est la stabilisation de la Syrie. Pourquoi ? Parce que la guerre civile syrienne, elle a dévasté la région, elle a causé énormément de problèmes de sécurité à tout le monde. Il y a un deuxième sujet qui est les zones d'influence, donc les pays du Golfe. Ils investissaient déjà beaucoup en Syrie avant la guerre, en réalité, les pays du Golfe, dans des secteurs non productifs, effectivement, l'immobilier, le commerce, les services. Le sujet, c'est aujourd'hui, est-ce qu'ils vont commencer à investir dans l'économie productive? Bon, il y a un sujet intéressant, par exemple, sur les ports, sur l'idée que Abu Dhabi va travailler avec CMA-CGM, sur l'attaquier. Bon. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même l'idée aussi, pas simplement du partage de zones d'influence, mais d'une rentabilité économique de la Syrie. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes que soulève Joseph, qui est ensuite l'accroissement des inégalités, qu'est-ce que ça signifie pour la société syrienne. Simplement, on ne pourra probablement pas faire l'économie de ces acteurs et de leur rôle là-dedans. Et ce qui nous intéresse aussi sur la façon dont les acteurs du consensus de Washington, entre guillemets, si ça existe encore, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI ou les Occidentaux en général, ils mettent encore quand même des limites. Ils essaient de poser un cadre légal. Le FMI, il est là pour dire oui, mais alors attention, on peut pas investir. Mais c'est un vieux cadre de privatisation qui est le cadre habituel, effectivement, de réflexion sur la construction des économies. Donc comment est-ce qu'on prend en charge cette misère sociale? Mais revenons quand même à un point très important. C'est que là, on parle plus d'humanitaire. Alors qu'en réalité, on est dans une situation qui est du niveau d'une aide humanitaire massive. Mais on est déjà en train de parler d'économie et de fonctionnement économique. Et ça me semble déjà, en réalité, très prometteur.
Vous avez cité Dorothée Schmidt, le transporteur français CGA-CGM, qui a signé un contrat avec le gouvernement syrien pour exploiter pendant 30 ans le port de Latakié, contrat qui prévoit 230 millions d'investissements sur les 5 prochaines années. Donc les pays du Golfe ne sont pas les seuls à se positionner aujourd'hui, la Turquie aussi, le fait que vous connaissez bien Dorothée Schmidt. Joseph Daher, comment aujourd'hui appréhender tout cet argent qui arrive massivement, qui inonde, enfin qui donne l'impression, parce que les chiffres sont faramineux, d'inonder la Syrie, en tout cas d'être versée comme ça par poignées de dollars pour que cet argent profite aux Syriens. Enfin, comment répondre à ce que disait Dorothée Schmidt?
Alors, tout d'abord, je pense que c'est important de rappeler qu'il s'agit de promesses d'investissement, de memorandum of understanding, que tout un certain nombre de ces contrats doivent être mis en place. Donc, il y a toute une série de compagnies, et encore une fois, on voit l'allocation de ces contrats fait plus par dynamique politique qu'économique. UCC Company, il s'agit de propriétaires syro-qataris, proches de la classe dirigeante du Qatar, neveux de Mohamed Hamcho, qui était le bras droit de la famille Assad en termes économiques et qui vient de faire un accord de réconciliation économique avec le nouveau gouvernement. D'ailleurs, il y a une manifestation au début de l'année à Damas dont j'ai participé pour protester contre cela.
Donc, d'abord, parce qu'il n'y a personne, Ahmed Al-Shara, il est vraiment obligé d'appeler tous les anciens proches de l'ancien régime parce qu'il n'a personne autour de lui, il n'a pas de compétences, c'est ça
Non, je ne pense pas qu'il s'agit d'une compétence, il s'agit véritablement d'une orientation économique, c'est-à-dire de servir ces personnes, ils ont commis tout un certain nombre de crimes, financement de milices. Si on regarde les notamment beaucoup de personnes qui avaient participé à cette manifestation dont j'ai participé, étaient issus de quartiers de type Jobar, Zamalka, dont ce businessman avait envoyé ses milices pour enlever tout ce qui était, en l'occurrence, l'acier et autres, pour bénéficier de leur destruction et pour accumuler des nouveaux profits. Je pense qu'il s'agit véritablement d'un problème d'orientation de politique économique qui favorise le capital à tout prix, un profit à court terme. Donc on va favoriser des investissements dans immobilier de luxe, tourisme, finances et autres, à la place du capital productif. Deuxième chose, je ne pense pas qu'on peut séparer la question des droits démocratiques et des droits sociaux. Et c'est ce qui est aussi au cœur de la reconstruction. C'est-à-dire, on a parlé d'essayer de stabiliser la Syrie, ce qui est, je pense, l'objectif en premier lieu des monarchies du Golfe, en plus d'acquérir de l'influence, comme la Turquie et autres. Mais c'est une stabilisation qui se fait de manière autoritaire. On a quand même eu 2 massacres l'année passée qui ont été commis par les forces gouvernementales, que ce soit sur la côte, contre les populations civiles alaouites, contre les populations druzes. On a un approfondissement des divisions aussi ethniques, avec un discours extrêmement dur, si ce n'est raciste, contre les populations kurdes, qui ont pu avoir lieu lors des dernières offensives armées. Donc, et on a une absence de participation par en bas des Syriens et des Syriennes au futur de la Syrie, de la reconstruction. C'est pour ça, encore une fois, pour moi, ce qui est fondamental, c'est de voir la reconstruction comme un projet qui ne peut pas séparer les droits démocratiques et sociaux. Par exemple, dans le cadre de la reconstruction, pourquoi on ne demande pas l'avis des syndicats, associations professionnelles, dont on a vu toute leur leadership nommé par en haut sans élection démocratique de base? C'est... voilà.
On entend bien, Dorothée Schmidt, combien la volonté de reconstruire l'État syrien, puisque c'est ce que ne cesse de dire Ahmed Al-Shara, il faut reconstruire un État. C'est dans ce sens-là qu'il a d'ailleurs passé un accord avec les Kurdes du Rojava. On en a parlé dans l'émission récemment. La volonté de reconstruire l'État n'engage pas nécessairement la façon dont le pays sera reconstruit en dur, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ça reste décorrélé dans les faits.
Oui et non, parce qu'en fait, le gouvernement veut aussi garder la main sur les feuilles de route économiques. Simplement, je pense que ça lui échappe en grande partie. C'est ça qui est intéressant. Alors évidemment, ça lui échappe peut-être pas sur les projets les plus importants ou massivement, mais il y a quand même un phénomène de reconstruction spontanée. Il y a quand même des forces centrifuges qui sont très importantes. Et la priorité, évidemment, maintenant, pour le gouvernement, pendant tout le dernier mois, ça a été la sécurité, entre guillemets, et la reconquête des régions kurdes, en réalité. Ça a été de remettre la main sur les régions kurdes pour empêcher le séparatisme du Rojava. Et c'est lié à quoi ? C'est lié aussi au parrainage de la Turquie, qui ne veut pas, qui veut éviter à tout prix qu'on ait une forme de séparatisme kurde. Donc, en réalité, même s'il souhaitait que ce soit décorrélé, ça n'est pas du tout décorrélé, parce que la question de Al-Jazira, la question des régions où se trouvent les Kurdes, c'est une question économique aussi. Et il ne faut pas oublier qu'on a sur tout ça aussi une contrainte climatique très importante. Alors là, c'est l'hiver, il y a un gros problème sur les prix de l'énergie, il y a une très forte grogne sociale autour de tout ça. Sauf que l'été, c'est la sécheresse qui vient, et que c'est aussi considéré comme étant un des facteurs qui a provoqué la guerre civile, en réalité. C'est l'attrition de la ressource alimentaire, c'est
l'accès à l'eau.
La sécheresse, l'accès à l'eau, comme vous le disiez. Et donc ça, c'est des très très grosses contraintes macroéconomiques qui vont revenir dans la figure du régime très rapidement.
En attendant, le régime, j'allais dire, peut compter. Est-ce qu'il compte sur elle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la diaspora syrienne qui revient est aujourd'hui une de ses forces de volonté de reconstruire le pays. Le HCR estimait en novembre dernier que plus d'un million de Syriens étaient rentrés dans le pays depuis les pays voisins.
C'est un rêve qui se réalise. Je l'ai toujours dit à mes filles qu'on allait rentrer. Je leur ai expliqué que l'on allait vaincre ce régime qui nous a privés de notre pays et qui a privé mes filles de la nationalité.
C'était un régime dictatorial qui tuait des centaines de milliers de Syriens. Mes filles doivent voir ce qu'il s'est passé et les raisons qui nous ont poussés à quitter la Syrie en tant qu'opposants au régime d'Assad. Mais c'est notre responsabilité de revenir, comme beaucoup d'autres. On doit reconstruire soit avec nos plumes en tant que journalistes, soit avec nos mains.
Joseph Der, il y a tous les Syriens et les Syriennes qui ne sont pas rentrés, ne serait-ce que parce qu'en Syrie, le revenu mensuel moyen est de 64 dollars et que beaucoup préfèrent rester à l'étranger où leur salaire permet de soutenir une dizaine de proches. Et pour tous ceux et celles qui sont rentrés, est-ce que cette énergie-là fut-elle concentrée sur de petits projets? Est-ce que cette énergie-là est utilisée par le pouvoir en place? Est-ce qu'Ahmed Al-Sharaa se rend compte de cette force que représente la diaspora? Et quelle idée la diaspora a-t-elle de ce que doit être la Syrie? Est-ce que de celles et ceux qui rentrent, bon, c'est difficile de parler en généralité, mais on a plutôt l'idée de reconstruire la Syrie telle qu'elle était avant ou d'en faire une nouvelle? Enfin, que dire sur la diaspora syrienne et la reconstruction?
Alors, tout d'abord, la diaspora syrienne, elle n'a pas un profil homogène. Hein. C'est une multitude entre, par exemple, énormément qui sont revenus, soit Turquie ou Liban, étaient très souvent, pas forcés, mais en tout cas du Liban aussi, très fortement forcés, on va dire, et sont issus de plutôt populations pauvres. Après, on a ce qui a été mentionné au niveau, particulièrement à Damas, un agrandissement, une expansion des ONG. Là, on voit plutôt un cadre d'une classe moyenne libérale qui a pu revenir à Damas, mais qui reste relativement limitée. Et au niveau de la diaspora plus issue de... on va dire d'une classe d'affaires, il y a différentes générations, mais celle qui a quitté pendant la guerre, il n'y a pas beaucoup d'investissement dans le terme économique. Oui, il y a une aide qui s'est développée d'ailleurs durant la guerre, qui n'est pas nouvelle, pour aider à reconstruire une infrastructure particulière dans une ville, ou aider à reconstruire un bâtiment, des aides pour aider une famille qui, par exemple, a des besoins médicaux. Ça, c'est toujours très présent. On estime aujourd'hui les envois de fonds envoyés par la diaspora à plus de 4 milliards de dollars au niveau annuel, qui, en fait, permet aux Syriens et aux Syriennes de survivre. Vous le disiez, le salaire minimum, c'est 64 dollars. On a besoin d'un salaire moyen, peut-être 100, 150 dollars, mais le coût de la vie pour une famille de 5 à Damas, elle arrive presque à 700 dollars. Ça, c'est coût minimum. Sans ces envois de fonds, c'est pas possible aux Syriens et aux Syriennes de survivre, qui dépassent grandement l'aide humanitaire. Ce qu'on regarde au niveau de la classe d'affaires, c'est qu'il y a peu de retours, peu d'investissements, parce que déjà, les conditions elles sont pas stables. Il y a encore... certes, on est en post-conflit, mais il y a des conflits encore. alors certes pas de manière massive, mais quand même présent. On a des coûts de production extrêmement élevés. Il faut savoir que le prix de l'électricité en Syrie, c'est le plus cher par rapport aux pays régionaux. En termes d'infrastructures, on manque de tout. Et finalement, il y a encore cet aspect, comme je le disais, c'est que les gros contrats et une partie des opportunités économiques sont essayées d'être captées par le nouveau pouvoir qu'on entend, donc des contrats alloués à ces personnalités affiliées anciennement à Hayat Tahrir al-Sham du président.
Dorothée Schmidt, comment on fait se rencontrer la force de volonté de la diaspora, y compris venant de Turquie, dont peut-être beaucoup d'ailleurs de ces exilés syriens ont travaillé dans le bâtiment, le secteur du bâtiment. On sait que quelle force motrice de la croissance turque il est, avec toutes les questions politiques que ça pose. Mais bon, en tout cas, cette force de volonté de la diaspora, comment on l'a fait rencontrer les grandes promesses de financements internationaux ?
Je trouve qu'il y a vraiment une thématique absolument fascinante autour de la diaspora syrienne, parce que, comme l'a très bien dit Joseph, elle est extrêmement diverse. Elle recoupe toutes ces échelles sociales différentes dont on a parlé. Il y a un vrai sujet sur cette classe d'affaires expatriées, dont une partie était d'ailleurs partie bien avant Assad. Une partie se trouve dans le Golfe, une partie se trouve aux États-Unis, au Canada. Donc, des gens qui, en fait, ont regardé l'écroulement de la Syrie complètement de l'extérieur et qui pensent en termes de business personnel et qui, effectivement, peut-être comme on pourrait dire la diaspora libanaise, n'ont pas forcément un intérêt immédiat dans la reconstruction du pays. C'est pas forcément eux. Or, mais eux sont une courroie de transmission très importante avec les États et avec les régimes. Donc, ils peuvent perpétuer ce système dont on parlait de crony capitalism, qu'on nous dit joliment en français, donc de le capitalisme des copains. Ils se mettent dans les endroits où il y a de la rente. Et il y a la rente, c'était le système de fonctionnement de Assad, et c'est des choses qui se remettent en place très facilement dans les post-conflits. Ce que je trouve intéressant, encore une fois, parce que j'essaie toujours de remettre du positif dans ce tableau extrêmement à la fois compliqué et très dynamique quand même, c'est que si on regarde comme précédent la reconstruction de Beyrouth avec Hariri, on a des forces quand même concurrentes, malgré tout.
Contrairement à Beyrouth, les populations.
On n'a pas un seul homme d'affaires qui va arriver, qui va s'emparer de la Syrie. Et on a plusieurs pays qui s'intéressent à la Syrie. Et on peut espérer qu'il y ait une forme d'équilibre qui se fasse. Ce que je trouve assez fascinant, c'est que quand je pose la question, par exemple, de la place des Français, on a eu ma conférence annuelle il n'y a pas longtemps, on a parlé de la Syrie, je disais, bon, mais alors nous, est-ce qu'on n'a pas du retard ? Non, pas du tout, la France est très en avance, parce que politiquement, on a été les premiers à recevoir, Inch'Allah, on veut se positionner, etc. Sauf qu'on pèse rien du tout économiquement. Donc, peut-être que l'important, c'est pas simplement de faire se rencontrer les différents niveaux de diaspora, le niveau micro-macro, mais c'est aussi, comme on dit depuis le début, le niveau politique et ce niveau économique d'un affairisme incroyable qui est en train de se développer. Affairisme qui, encore une fois, pour moi, est intéressant parce qu'il n'est pas uniquement rentier. Il y a quand même une partie, probablement, qui va être productive parce qu'on pense qu'il y a de l'argent à faire en Syrie, même si pour le moment, on ne sait pas très bien comment. Mais il y a un fantasme, par exemple, que la Syrie redevienne ce qu'elle était sous le monde antique, une sorte de carrefour commercial. C'est pour ça que CMA-CGN va investir à l'attaquer. C'est pour ça qu'on parle de construire des nouveaux pipes. C'est pour ça qu'on va reconstruire des routes. C'est l'idée que, brusquement, ce levant va se débloquer. Un levant qui était complètement cloisonné va redevenir intégré d'une façon ou d'une autre.
Peut-être un tout petit mot, Joseph Daher. Peut-être que vous voulez réagir à ce qu'a dit Dorothée Schmidt, mais sur la question aussi de la façon dont l'architecture et l'urbanisme en général ont des effets très directs sur la capacité future des sociétés à se rassembler, éventuellement à se mobiliser, à manifester. Vous-même nous dites que vous avez manifesté en janvier à Damas. Ça veut dire que pour l'instant, l'urbanisme, l'architecture, ou ce qu'il en reste, les destructions, permettent encore ces rassemblements-là. Il faudrait être vigilant aussi à la façon dont la Syrie est reconstruite aussi pour permettre qu'une vie politique, une vie citoyenne se poursuive et ne pas laisser les États du Golfe imposer aussi la vision très particulière qu'ils ont, eux, de la ville et justement cette façon qu'ils ont de faire en sorte que les gens ne se rassemblent pas.
Alors certes, mais je pense qu'il y a aussi des relais internes qui d'ailleurs étaient en train de se développer avant 2011, ce système des compounds, ces villes un peu aux quartiers un peu luxueux, séparés, ultra sécurisés, où une classe d'affaires se développait. Je pouvais déjà le voir auparavant à Damas, à Alep avant 2011, ou bien voilà, ces grands centres commerciaux où pour la grande majorité de la population, elle était inaccessible. Et je pense, c'est vrai qu'il y a une contradiction. Hein. J'ai été et je le reste relativement critique du gouvernement en place, mais on a la capacité aujourd'hui de s'exprimer en Syrie, de s'organiser, de manifester. Mais également, ces tentatives sont réprimées selon les endroits. Et donc on est dans un, je pense, dans un système contradictoire, qui est normal dans, en partie d'un post-conflit, où on a un État qui veut essayer, selon moi, de reconstruire un système autoritaire, mais qui n'a pas encore totalement ses capacités pour le faire, et une société civile dans son sens large, pas simplement ONG, qui essaie de se reconstruire. Je pense que c'est une course de vitesse. Et il s'agit de protéger ce que les Syriens et Syriennes ont essayé depuis en fait plus de 50 ans d'achever, c'est-à-dire des gains démocratiques et sociaux.
Reconstruire un pays, c'est aussi reconstruire une société. Taha Al-Mohammed nous a rejoint dans ce studio pour évoquer dans ce focus sa ville d'origine, Massiaf, et la reconstruction du lien social, entreprise en particulier par les femmes.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Alors, il faut se représenter la ville de Massiaf. On est à l'ouest de la Syrie, entre Latakia et Homs à peu près. Une ville qui comptait, avant la révolution 2011, environ 35 000 habitants et qui, pendant la guerre civile, a accueilli des déplacés, ce qui a accentué sa déjà très grande diversité religieuse et culturelle. C'est une ville qui se distingue par une vie politique dynamique, une histoire militante qui a plutôt été opposée au régime des Assad, contrairement à la campagne environnante, dont les hommes se sont assez massivement enrôlés dans l'armée. Je restitue des éléments que vous nous avez appris, Taha Al-Mohammed, puisque vous êtes originaire de Massiaf. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes doctorant à l'EHESS, rattaché au CESOR. Vous continuez à travailler sur Massiaf pour votre thèse sur l'engagement politique et citoyen des habitants et des habitantes de Massiaf qui se sont organisés depuis un an pour pallier les défaillances institutionnelles dans cette Syrie encore en transition. D'abord, puisqu'on parle de destruction et de reconstruction dans cette Syrie, est-ce que la ville de Massiaf a été très abîmée par la guerre ?
Bonjour et merci pour l'invitation. En fait, Massiaf, il est resté toujours sous le contrôle de la régime de Bachar al-Assad. Donc non, il n'est pas comme les autres villes, comme à Alep ou à Idlib. Mais en même temps, il n'est pas comme Damas, où c'est le côté de la Syrie. Donc il y a vraiment une situation très pauvre, en général, à la ville. Donc il n'est pas bombardé, mais en même temps, sur la question de l'économie, c'est horrible.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 8 décembre? Si la ville était sous le contrôle du régime de Bachar al-Assad, ça veut dire que les forces de sécurité étaient présentes en nombre. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant le 8 décembre, juste avant la chute de Bachar al-Assad? Est-ce qu'elles étaient, elles sont restées dans la ville? Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, elles sont restées jusqu'à le 7 décembre. Et il y a des choses un peu bizarres parce que on parle de grandes milices qui existent à la ville et à la campagne, mais vraiment entre le nuit du 10 le 7 décembre et jusqu'à le 5 heures du matin à 8 sont disparus.
Ils étaient plus là, ils sont partis.
Vraiment disparu, donc la ville elle est vraiment vide de tous les pouvoirs. Le centre de Mukhabarat, le police, la sécurité, tout ça, donc ils sont vides. Voilà, ça commence de ce moment, les gens de Massiaf d'organiser comment on peut gérer la situation à la ville, parce que vraiment, il n'y a rien là-bas. Donc,
Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? Parce que les forces d'opposition n'arrivent pas tout de suite dans la ville de Massiaf, donc elle est pendant plusieurs heures, voire quelques jours, laissée livrée à elle-même, en quelque sorte. Ces habitants de Massiaf, qu'est-ce qu'ils estiment devoir protéger tout de suite, dans l'immédiat?
En fait, les Tahrir al-Sham sont entrés le 8 décembre, mais le soir.
Donc les forces d'armée d'Alger.
Voilà. Donc, pendant la journée, sont créés plusieurs groupes pour protéger les centres commerciaux, les bureaux de l'État et tout ça. En même temps, sont essayé de reprendre tous les armes qui étaient vraiment dans le rue. Parce que les milices et les groupes armés du régime, ils sont laissés toutes les armes dans les rues.
Donc il y avait des armes partout sur les trottoirs, il fallait les récupérer.
Ils ont refait ça et quand Tahrir Sham rentre, ils ont donné toutes les armes. Donc voilà, mais en général, la ville, elle reste plusieurs jours parce que même le groupe qui entrer à la ville, on parle sur même pas 20 personnes qui sont entrées au le groupe de Hayat Tahrir Sham. Donc la ville presque vide et on parle sur une ville, il y a un grand quartier qui est d'une majorité de communautés alaouites qui sont pro le régime. Donc voilà, donc il y a cette situation un peu compliquée dans les premiers 12 jours.
Donc pendant ces heures-là, critiques, les habitants s'organisent à la fois pour récupérer les armes abandonnées, sécuriser la ville, pour protéger les infrastructures, pour sauvegarder aussi des documents disponibles, puisque le régime était présent, il faut le plus possible sauvegarder les traces qu'ils ont laissées pour d'éventuels, on ne sait jamais à quoi ça peut servir, bien sûr, enfin si, on peut l'imaginer pour plus tard. Et ce mouvement spontané, très vite, il s'organise et des associations se forment, en particulier des associations de femmes. Pourquoi Taha Al-Mohammad et qu'est-ce qu'elles font en particulier?
En fait, déjà, dans la ville de Massiaf, les femmes, ça présente toujours, même avant la révolution, dans la vie civile et politique. Donc, c'est, pour nous, ce n'est pas des choses nouvelles. Depuis le premier jour, on parle plutôt après une semaine, ça a créé le premier groupe collectif de 15 personnes. Ils ont créé un groupe qui s'appelle le Jeunesse de Liberté à Massiaf. On parle de 8 femmes, donc c'est les majorités qui ont créé le premier groupe. Et après, il y a des choses pendant la révolution, les majorités des hommes, les activistes sont sortis de la ville depuis vraiment le premier un, deux mois. Donc, moi, je parle sur. Quand on parle en général sur la situation, il y a plein de villes ou villages en Syrie qui sont déplacés forcément par le régime de Bachar al-Assad, mais à Massiaf, moi, je trouve qu'ils sont vidés la ville. Donc, ils sont sortis depuis le premier un mois. Ils ont participé plutôt à la révolution à l'extérieur. Donc, il manque des hommes. Donc, ce n'est pas la même que les femmes qui existent plus que les hommes à Massiaf, comme disent activistes.
Les femmes sont restées, les hommes, alors pour certains activistes, étaient partis depuis longtemps. Dans les campagnes, les hommes, à l'inverse, qui étaient majoritairement alaouites, se sont enrôlés dans l'armée. Donc il manque d'hommes de toute façon, et à Massiaf, et dans les villages autour. Parmi les associations qui se montent comme ça, d'abord spontanément, puis s'organisent, vous citez l'équipe bénévole des Fils de la Terre, alors qu'ils portent mal son nom, puisqu'elle compte de très nombreuses femmes, qui distribuent des repas aux familles les plus démunies, le collectif des femmes de Massiaf, les associations Rama, Kafwa. Est-ce que ces associations sont aussi soutenues par les Syriennes et les Syriens originaires de Massiaf, mais exilés à l'étranger par la diaspora?
En fait, c'est plutôt le financement de tous ces groupes, soit avec du financement local.
Ils ont quelques économies.
Oui, mais la majorité, vraiment, c'est de les gens de Massiaf, parce qu'au même temps que les gens à Massiaf ou les activistes sont en train d'organiser des associations sur le terrain là-bas, il y a des groupes qui commençaient à organiser pour financer et l'aide toute cette association pour faire son travail.
Le travail, en l'occurrence, c'est travail d'éducation. On fait en sorte que les enfants continuent à recevoir des formes de cours ou de leçons, des travaux dans les écoles, des plantations d'arbres, le nettoyage des rues, de multiples initiatives civiles pour faire en sorte que la vie reste possible à Massiaf et agréable, malgré les très dures conditions économiques par ailleurs, les gens qui n'ont plus rien, les habitants de Massiaf. Est-ce que ces mouvements peuvent se perpétuer? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui soutenus financièrement?
Non, c'est toujours avec les groupes de Massiaf, les gens de Massiaf qui sont en exil. Jusqu'à aujourd'hui, comme Joseph le dit, donc c'est plutôt tous les financements, c'est central à Damas. plutôt. Mais en général, je pense pas qu'à Massiaf, mais en général dans tous les campagnes et les petites villes. Donc non, c'est toujours les gens en exil qui sont financés toute cette activité.
Par exemple, l'association CAFOI est composée d'un noyau dur avec trois femmes qui vivent en exil, l'une à Lyon, une autre à Berlin et une troisième au Liban. Peut-être pour conclure, Al-Mohammad, est-ce que ces mouvements, par ailleurs, ou ces initiatives restent relativement communautaires? Est-ce que les chiites s'organisent ensemble, les sunnites s'organisent ensemble, les alaouites, ou est-ce que les confessions ou appartenances culturelles ne comptent pas dans ce contexte?
Avant la chute du régime, il y a cette division entre plusieurs groupes. Mais après, on parlait sur le village, le ville et le village. Donc, par contre, CAFOI, ils travaillent vraiment entre les villages et le ville. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve que son travail, c'est un peu spécial, parce que toutes les autres associations, et je pense que c'est à cause de la question de financement, sont pas le pouvoir de gérer la situation dans le village et la ville. Mais CAFOI, il fait ce travail entre les deux. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont, ou plusieurs femmes, qui, dans le noyau de CAFOI, sont un peu de toutes les communautés en Massiaf et la Kamban.
Des communautés, donc multiples, des identités plurielles au sein de ces associations CAFOI qui travaillent justement à réduire la rupture entre la ville de Massiaf et toutes les zones plus rurales aux alentours, majoritairement composées de populations alaouites. Et c'est plus facile, nous disiez-vous en préparant cette émission, c'est plus facile pour les femmes de recréer ce lien. Elles ne sont pas associées aux armes, elles arrivent plus facilement à recréer un dialogue. Merci beaucoup d'être venu en parler avec nous. Tahal Mohammad, doctorant à l'EHESS, rattaché au CESOR. Peut-être, Joseph Daher, pour conclure, ça vous évoque d'autres expériences un peu similaires en Syrie que vous pouvez rencontrer quand vous retournez sur place?
Oui, oui, tout à fait. Mais si je peux me permettre, Massiaf a aussi un héritage politique qu'on peut voir jusqu'après. Aujourd'hui, il y a eu des manifestations il y a quelques jours contre l'insécurité. Ils ont manifesté contre l'électricité, en solidarité avec Soueda. Et un autre aspect qui est très important, c'est la féminisation du travail en Syrie durant la guerre. Que les femmes sont devenues de plus en plus importantes au sein du foyer, parce que les hommes étaient partis ou emprisonnés ou assassinés et autres. Et ça, c'est une question aussi du futur, parce qu'on voit que cette question redevient sur le devant de la scène avec ce nouveau gouvernement qui remet en cause en partie cette féminisation du travail et un certain nombre de femmes, notamment à Soueda ou sur la côte, qui ont été enlevées, et beaucoup de cas, qui ont peur de sortir de certaines régions. Donc la question de la féminisation du travail est également très importante et fait partie des défis de l'avenir, sachant que les femmes ont un rôle central pour la reconstruction.
Cette dimension aussi sociale et sociétale de la reconstruction, Dorothée Schmid, vous la prendrez en compte dans les programmes de recherche que vous avez instaurés ou que vous suivez à l'IFRI pour que la reconstruction ne soit pas qu'un slogan, nous avez-vous dit tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dorothée Schmid, responsable du programme Turquie et Moyen-Orient à l'IFRI, qui travaille en ce moment donc sur les processus de reconstruction post-guerre dans la région du Levant. Merci beaucoup, Joseph Daher, chercheur spécialiste de l'économie politique du Moyen-Orient. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru en 2002 chez Sileps, Syrie. 22, pardon. Oui, c'est beaucoup plus récent et le contexte est plus récent. Oui, pardon. Syrie, le martyr d'une révolution. C'est le titre de votre livre. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et pendant ce temps, la course à l'armement continue. Catherine Dutu, le Canada veut relocaliser sa production et va détailler sa stratégie de défense aujourd'hui.
Dernière étape en date de sa politique nationale, acheter canadien pour diminuer la dépendance aux voisins états-uniens sous l'imprévisible présidence de Donald Trump, note le quotidien L'Acadie Nouvelle, le président des États-Unis habitué aux menaces belliqueuses, y compris contre ses alliés. Aujourd'hui, 75% des achats militaires du Canada proviennent des États-Unis et Ottawa veut renverser la tendance, annonce Radio-Canada, pour réserver 70% des contrats de défense aux entreprises canadiennes titre le quotidien québécois Le Devoir. C'est une manière pour le Premier ministre canadien, Mark Carney, de montrer qu'il a les moyens de ses ambitions, ajoute Radio-Canada. Près d'un mois après son discours qui avait fait sensation à Davos, Mark Carney avait diagnostiqué une rupture de l'ordre mondial. Alors, sans nommer Donald Trump, le Premier ministre canadien avait dénoncé les grandes puissances qui utilisent les droits de douane comme levier et les chaînes d'approvisionnement comme des vulnérabilités à exploiter. Mark Carney avait exhorté les puissances moyennes à s'unir pour réagir à la coercition des grandes puissances. Lorsque les règles ne vous protègent plus, vous devez vous protéger vous-même. Eh bien, le document stratégique qui doit être publié aujourd'hui souligne la nécessité de repenser la souveraineté canadienne, les besoins de défense, rapporte le quotidien québécois La Presse et le Financial Times, notamment dans l'article où lorgne l'administration de Trump. Acheter canadien est à la fois une stratégie économique et politique, comme l'explique le ministre canadien de la Défense, David McGuinty, dans le téléjournal de Radio-Canada.
C'est une opportunité importante pour le Canada de prendre beaucoup plus de contrôle sur notre propre destin comme pays.
La nouvelle stratégie industrielle de la défense va favoriser une dizaine de secteurs, comme les drones, l'aérospatiale, les blindés, les munitions et l'intelligence artificielle, dans le but de développer une capacité entièrement canadienne.
L'objectif, c'est de produire le plus possible domestiquement au Canada et de donner un élan au secteur de la défense d'une façon comme on n'a jamais vu au Canada.
Le ministre canadien de la Défense, David McGuinty, sur Radio-Canada. Il s'agit du plus gros effort militaire d'Ottawa depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que le secteur de la défense au Canada emploie 80 000 personnes aujourd'hui, indique le Financial Times, le gouvernement libéral de Mark Carney espère créer 125 000 emplois au cours des 10 prochaines années, selon ce document stratégique consulté en avant-première, notamment par le journal La Presse au Québec. Le gouvernement fédéral prévoit aussi d'accroître les revenus de la défense pour les petites et les moyennes entreprises canadiennes de plus de 5 milliards de dollars par an. Ottawa entend également nouer un partenariat nouveau, ambitieux et global avec l'Union européenne et le Royaume-Uni, précise cette stratégie, et pourquoi pas des collaborations avec des pays de la région Asie-Pacifique, notamment l'Australie, le Japon et la Corée du Sud, détaille le Financial Times. Mais la dépendance aux géants états-uniens reste forte, tempère le journal de Montréal, alors que le Canada investit près de 82 milliards de dollars dans ses forces armées, précise Radio-Canada. Le pays veut porter ses dépenses en matière de défense et de sécurité à 5% du PIB annuel d'ici 2035. C'est l'objectif également fixé par les États membres de l'OTAN. La Deutsche Welle rappelle que c'était aussi une demande de Donald Trump.
Et la Chine, elle, continue à développer son arsenal nucléaire.
Au moment même où disparaissent les derniers garde-fous internationaux contre les armes nucléaires, souligne le New York Times, avec l'expiration récente du traité New Start qui liait la Russie et les États-Unis, rappelle CBC. Donald Trump veut qu'un nouvel accord inclue désormais la Chine, rapporte CNN et Reuters. Il faut dire que Pékin renforce son arsenal dans une nouvelle ère de rivalité entre superpuissances, analyse le New York Times. Le quotidien américain nous emmène dans l'une des vallées luxuriantes et brumeuses du sud-ouest de la Chine, dans la province du Sichuan. Des images satellites révèlent de nouveaux bunkers, des remparts, un complexe flambant neuf qui servirait à manipuler des matières hautement dangereuses, affirme le New York Times. Sur une autre installation où la Chine fabriquerait des cœurs de plutonium destinés à des ogives nucléaires, affirme le New York Times, une formule emblématique du président chinois Xi Jinping apparaît en caractères si grands qu'ils sont visibles depuis l'espace. Restez fidèles à une cause fondatrice et souvenez-vous toujours de notre mission. Un expert en renseignement géospatial compare chaque site nucléaire chinois à une pièce de mosaïque qui, vue d'ensemble, révèle une croissance rapide, souligne le New York Times, source de tensions aussi avec les États-Unis, qui accusent la Chine de mener secrètement des essais nucléaires en violation d'un moratoire international. Pékin rejette ces accusations, explique le quotidien China Daily. Selon le Pentagone, la Chine possède plus de 600 ogives nucléaires et devrait en compter un millier d'ici 2030. Note le New York Times, et la Maison-Blanche se demande quel rôle pourrait jouer cet arsenal en cas de guerre avec Taïwan.
Merci Catherine Dutu.